Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 413. Et on invite quelqu'un qui est le troisième plus invité dans Format Radio. Autrement dit, c'est un proche de Format Radio qui était là dès le démarrage, qui a la gentillesse de venir. Et c'est plus facile quand on a institutionnalisé que quand on démarre, où là on a besoin un peu d'entraide. Denis Christol. Denis Christol, le troisième à être le plus venu dans Format Radio. Et que tout le monde redemande. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il revient. Voilà, c'est important. Et chaque fois, c'est pour nous parler soit d'une expérience qui porte, soit d'un livre. C'est ce que j'aime bien chez lui. C'est quelqu'un qui est un universitaire, ce qui n'est pas forcément chez moi une qualité. C'est un universitaire qui fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'intellectualiser, on dit ce qu'il faut faire aux autres avec une parole judicative, c'est quelqu'un qui fait pour de vrai. Et dans ses ouvrages, il nous donne des pistes pour que chacun puisse les lire. Ils sont très nombreux parce qu'il a la chance de produire beaucoup. Mais surtout aussi, il met en œuvre, et je vous invite à regarder Le rêve de Dana, je crois, l'expérience qu'il a menée, qui est une très très belle expérience, qui est inspirante et qui peut inspirer beaucoup d'auditeurs. Donc n'hésitez pas à aller regarder les anciens épisodes. Vous allez apprendre plein de choses. Bonjour Denis!
Bonjour Stéphane.
Eh bien aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'une de tes productions. Donc merci de nous alimenter. C'est l'éthique de la facilitation. Donc qui est en
Oui,
2025. Alors
c'est
pourquoi tu as
ça.
écrit ce bouquin?
Écoute, je m'intéresse de plus en plus à la facilitation et l'intérêt que je voyais, c'est d'essayer de trier entre des pratiques qui viennent du monde anglo-saxon, du monde asiatique, du monde du nord de l'Europe, hein, scandinave, et de pouvoir m'interroger sur qu'est-ce qu'on mettait derrière ce mot facilitation, qui n'est pas du tout fortement compris de la même façon dans ces différentes sphères. Et l'éthique, pour t'en donner ma définition tout de suite, c'est un auto-saisissement de soi. Un
D'accord.
auto-saisissement de soi qui vise à se poser des questions sur qu'est-ce que je fais quand je fais ce que je fais.
Autrement dit, l'éthique pour toi est individuelle plus que collective.
Oui, la morale est collective. La morale,
D'accord.
c'est un ensemble de prescriptions, de règles, de normes auxquelles on va se confronter, alors que l'éthique est un travail plus individuel.
Alors, sachant qu'il y a, c'est pour ça que c'est bien que tu le définisses dès le démarrage, c'est qu'il y en a d'autres qui inversent la problématique en disant que la morale serait plus individuelle et l'éthique. Bon, après, tout est bon, il faut avoir une cohérence dans ces définitions. Et donc, pour toi, la facilitation, c'est quoi, avant de parler de son éthique?
Écoute, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la facilitation, c'est l'art de rendre simple.
D'accord.
Et donc, déjà, un arbre va faciliter la vie d'une plante plus petite en lui offrant la protection de l'ombre, des nutriments. Donc, elle lui simplifie la vie. Et de ce monde naturel, vivant, c'est utilisé dans le monde des humains. Avec cette idée que on peut aussi faciliter ce qui se produit dans les apprentissages. Je dirais qu'il y a trois grandes périodes historiques de la facilitation. La première, elle date du 19e siècle. On commence à parler de facilitation lorsque on constate que des enfants qui observent un adulte, dans le cas présent un adulte qui pêche au moulinet, vont plus vite lorsqu'ils l'observent que lorsqu'ils se débrouillent seuls dans leur coin. Donc il y a une première dimension de la facilitation qui est la facilitation sociale, une facilitation par proximité. Et donc j'apprends mieux quand j'ai un modèle. Alors on
Par
connaît ça
mimétisme.
par mimétisme, donc les travaux d'Albert Bandura ou les travaux de Vygotsky avec la zone proximale de développement nous montrent ça. Donc la facilitation nous le démontre, on va même dire. Cette première phase de facilitation, c'est cette facilitation des apprentissages. Puis la facilitation va se développer dans les années 50, 60, 70. On voit apparaître des dynamiques de groupe dans le courant des relations humaines où il s'agit eh bien, de s'intéresser à l'humain dans les organisations en contrepoids des approches uniquement mécanistes du monde Delorien, on se dit, tiens, et qu'est-ce qui se passe dans l'humain? Et donc là, on commence à voir apparaître la facilitation de groupe, cette facilitation de groupe qui se met en place. Alors, Kurt Lewin nous parle de champ, nous parle d'énergie qui circule dans le groupe, de polarité, de zone d'attraction, de cohésion, de bouc émissarisation, de leadership, de sentiment d'appartenance. Donc, il nous montre tous ces processus, tous ces phénomènes. Et finalement, la facilitation vient les accompagner, vient les réguler, et se met à disposition de la dynamique des groupes. Voilà, ça, cette dimension de la facilitation apparaît là. Et puis, le temps passe, et on voit apparaître, probablement parce qu'on en a besoin ou que ça nous fait défaut, des demandes de facilitation, cette fois-ci en intelligence collective. La facilitation en intelligence collective, je dirais qu'elle va puiser à trois grands domaines culturels. Le courant nord-américain. Dans le courant nord-américain, tu as l'idée du co-design, du design thinking. Donc là, il s'agit d'aider à la production rapide de prototypes qui satisfassent au goût des clients. Donc c'est tout le courant qu'on a avec l'idée de icebreakers, de trust the process. Tu as tout un courant qui dit, voilà, en utilisant un ensemble de méthodes, eh bien, on va obtenir des groupes le meilleur rendement possible. Donc, tu as vraiment cette idée très, très marketing. Tu as un deuxième courant qui nous vient plus du monde scandinave. Dans les années 60, 70, tu as les premiers auteurs, chercheurs, qui vont parler de la facilitation comme un art d'accoucher des sociétés. Donc cette fois-ci, on ne vise pas à accoucher les meilleures idées pour vendre, mais accoucher des meilleurs collectifs pour faire société vivre ensemble. Donc tu as plein de pratiques de facilitation qui viennent du nord de l'Europe, de formes de dialogue, de formes de cercle, qui visent à habiliter la parole de chacun. Et puis, tu as un troisième courant
Troisième.
qui vient se mélanger, qui est un courant plus asiatique, je dirais. Peut-être que tu as eu un jour dans ta vie, tu as dit à un groupe, bon, je vous propose qu'on soit bienveillant entre nous aujourd'hui et qu'on s'écoute. Cette
Bien sûr.
prévention relationnelle, elle nous vient plutôt du monde asiatique, la bienveillance portée par le Tao, cette culture, où la dimension relationnelle est extrêmement importante. Donc, on va là y intégrer toute une dimension du soin à la relation, de l'écoute profonde, de la méditation en pleine conscience. Donc, voilà. Donc on peut voir ce courant se développer en même temps que l'industrialisation. Alors, assez paradoxalement, tu as des auteurs qui ont travaillé. Alors, je ne sais pas si tu connais Taishi Ono. Taishi Ono, c'est
Oui, bien
Pendant.
sûr. C'est Taylor, c'est Toyota, c'est le grand
C'est ça.
fondateur
C'est le
de Apple
pendant
Nice.
de. Voilà, absolument. C'est Toyota. C'est le pendant de Taylor pour le Japon. Donc, on va travailler sur le lean management. On va travailler sur la qualité totale. Et travaillant là-dessus, on va s'intéresser eh bien, à la concertation, à l'entente des groupes avant la prise de décision. Donc, ce courant asiatique, il vient par le monde industriel, il vient aussi par d'autres voies. Je pense à l'Institut Esalen en Californie. L'Institut Esalen qui est un lieu de contre-culture américain dans les années 70 où on va tester tout un ensemble de pratiques psychocorporel, alors ça y va du cri primal au rebirth, à toutes les approches de communication qui vont ensuite se développer. Et donc, beaucoup de choses sont testées dans cet institut et vont gagner le monde de la thérapie et de la formation. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la facilitation est héritière de ces grands courants où tu as à la fois ces pratiques, ces méthodes, ces techniques. En mode US, là, un packagé qui vise à produire, à forcer un peu l'intelligence collective, ces modes du nord de l'Europe, scandinave, hein, qui cherchent là à véritablement faire accoucher des sociétés, puis cette approche asiatique qui a une espèce de vision d'un monde plus harmonieux, plus équilibre, et finalement le facilitateur en arrive même dans ce monde-là à s'effacer face à l'énergie du groupe et à se contenter de l'accompagner dans son plus haut potentiel.
Et en France, il y a une acculturation des visions étrangères, mais est-ce que France, pays plutôt latin, est-ce que finalement la latinité qui est plutôt pyramidale, Taishi Ono avait écrit qu'il fallait renverser la pyramide, finalement, est-ce qu'on est voué à prendre les modèles des autres?
Alors, en fait, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des traditions françaises. Hein. La France est un pays particulièrement riche en traditions pédagogiques. Dans ces traditions pédagogiques, tu as, je dirais, deux grands courants. Un courant que je qualifierais un peu rapidement du discernement ou de l'élévation, qui vise à ce que chacun puisse élever son âme. Donc, c'est un courant qui est porté par les religieux, où la vérité est extérieure à soi, il faut tendre vers le ciel, et donc on sort de son corps pour écouter un maître. Donc là, si alors on n'utilise pas, j'ai pas entendu le mot facilitation dans ce cadre-là, mais là, l'idée, ça serait vraiment l'apprentissage pour gagner des vertus, en quelque sorte. Et le groupe serait une dimension extrêmement forte. On pense à la règle de Saint-Benoît, par exemple, dans laquelle les choses sont régulées. Et puis, tu as un deuxième courant dans les pédagogies qu'on va trouver en France, qui sont des pédagogies plutôt libératoires ou émancipatives. Donc, là, c'est plus lié à des dimensions idéologiques, politiques, communistes, socialistes, anarchistes, qui vont avoir un terreau de formateurs, d'expérimentateurs, qui vont tester des apprentissages en horizontalité. Et donc, ils ne parlent pas, hein, de facilitation, ce n'est pas leur vocabulaire, mais dans leur pratique, eh bien, ils vont intégrer beaucoup plus habiliter plus la parole du père. Ça va se traduire aujourd'hui jusqu'à des mouvements qu'on appelle d'éducation populaire, où, de façon, naturelle, l'idée de la facilitation, elle est extrêmement présente. Chacun doit pouvoir s'exprimer dans le groupe. Et celui qui est nommé souvent animateur vise à ce que chacun puisse s'exprimer, puisse parler, puisse dire des choses.
Ou peut-être plus dans ce courant sur les anarchistes avec la logique d'entente de Kropotkine que chez le petit père des peuples, donc on ne l'écrit pas pareil bien sûr, le petit père des peuples qui lui donnait une vérité qui finalement les communistes sont plutôt dans une logique de dire on a une vérité qui est transgressive, qui est un progrès social et donc il faut l'imposer aux autres et on retrouve bien la logique déiste du Moyen-Âge où effectivement l'écriture de Dieu s'imposait et le travail de l'individu c'est de s'approprier ça. On parle d'en haut, grosso modo.
Oui, dans les deux cas, finalement, même dans l'opposition, on parle d'en haut. Donc aujourd'hui, ce qu'on va observer, ce qui rend les choses peut-être plus difficiles, c'est d'une part la modernité, avec une rupture des liens, des grands liens traditionnels, de la famille, de la religion, de la politique, du syndicat, et puis une multiplicité de petits liens, plutôt en proximité, hein, ce qu'on voit apparaître avec la modernité ou l'hypermodernité dont nous parle Lyotard, c'est vraiment cette multiplicité de petits liens en proximité géographique ou sur des champs d'intérêt plus cernés que des grandes idéologies explicatives de l'ensemble de l'humanité. Donc là,
Tu ferais
on voit ça
partie de
qui se
ceux
met.
qui disent la modernité, et donc il y a des conséquences pédagogiques fortes, la modernité, on est en train de passer à autre chose.
Alors, probablement, que les formes d'apprendre ensemble bougent, évoluent. On peut imaginer que si la question de la facilitation monte en puissance aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'illusion du savoir. Autrement dit, avec toutes les modalités d'intelligence artificielle, d'obtention rapide d'informations en réseau, on a des tas de choses qui nous arrivent comme information, comme données. Et donc on se dit, je sais, mais ça n'est pas parce que tu sais que tu apprends. Autrement dit, tu peux consulter sur ton téléphone portable, avoir une information, donc tu sais que. Mais apprendre est un cheminement, un processus. J'ai rappelé Vygotsky et Albert Bandura. Et ce processus, il se passe par des conflits sociocognitifs, par la nécessité de se frotter aux autres. Et les frottements actuels ne sont pas que au plus haut niveau de l'État. On se désespère parfois de voir nos hommes et nos femmes politiques s'écharper. Parfois, la culture individualiste de l'expert fait qu'on va se resserrer sur son expertise. Et nombre de réunions dans les organisations, c'est des conflits d'experts.
Bien sûr. Et donc, dans ta démarche, quand tu dis apprendre, ça veut dire prendre avec soi au premier sens du mot, mais ça veut dire que forcément, on se confronte à ce qu'on pense, donc les conflits cognitifs, on apprend, on prend le temps de choisir ce qu'on veut prendre. Mais il y a un autre modèle que Stigler avait montré, disant en externalisant le savoir, finalement, on n'a pas besoin d'apprendre, ce qui est un processus long, voilà, d'apprentissage, alors que si on sait où est la connaissance, comme le livre l'a été à une époque, bah finalement, on sait très bien que la connaissance est sur ChatGPT. Si on sait le paramétrer, finalement, bah on lui demande, on sait. Finalement,
Alors, en
est-ce que
fait,
ce n'est pas une nouvelle posture face au savoir?
je distinguerai deux mots, hein, dans ce que tu as indiqué, savoir et connaissance, qui pour moi ne sont pas équivalents. Le savoir, c'est ce qui est plutôt externalisable, hein, c'est ce que tu as décrit comme un objet. Ça peut être un livre, ça peut être une base de données, mais c'est extérieur à l'individu. La connaissance, je la vois complètement incorporée à l'individu, complètement à l'intérieur de lui-même, ce qui renvoie quand même une différence entre ces deux dimensions.
Bien sûr.
On peut savoir parce qu'on a accès à un livre, on peut poser une question à une IA et obtenir une réponse, mais la connaissance, c'est l'intégration progressive de chaînes de pensée, c'est-à-dire d'idées qui viennent se mélanger à des idées déjà présentes, à des croyances, à des valeurs, à des opinions, à des raisonnements, et progressivement, on forme notre conduite, notre capacité d'action par une friction au monde. Si le savoir reste complètement étranger, c'est ce qui nous arrive actuellement, hein. On sait que le réchauffement climatique est un danger pour nous, mais nous n'agissons pas tant que nous n'en avons pas connaissance, c'est-à-dire vécu dans notre chair. La facilitation est intéressante dans le sens où elle réhabilite le corps. Elle réhabilite la connaissance par le corps, par le mouvement. Par l'engagement dans l'action. Ce que ne fait pas forcément le savoir, hein, qui a
Bien sûr.
souvent résumé le
Mais c'est
corps à un
bien sûr,
véhicule
surtout en
ou un
Occident.
support de savoir, un support organique de savoir.
Donc, toi, tu fais l'hypothèse que si, par exemple, on ne s'engage pas par exemple, le réchauffement climatique, si on croit que c'est quelque chose d'important, ça peut être sur les nouvelles façons de construire des institutions sociales, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne l'a pas mis dans sa chair.
Exactement. Tant que
D'accord,
tu n'as
l'hypothèse
pas
forte.
vécu dans ta chair le phénomène, il te reste étranger. Tu vois
Oui,
des
mais
familles à l'autre
ça ne
bout
t'empêche pas de
de.
t'engager.
Ouais, enfin, il n'y a pas un engagement très fort là, quand même.
Oui, mais socialement, il peut y avoir aussi le fait de dire tout le monde te dit qu'il faut le faire, pour des raisons à la limite de proximité qui est en dehors du savoir. C'est-à-dire, tu dis tout le monde le fait, je le fais avec tout le monde. Et donc, tu n'es pas hyper motivé, mais pas non plus démotivé. Tu étais porté par le groupe. Et donc, toute l'histoire qui est racontée fait en sorte que tu n'as pas besoin de porter la responsabilité de ton changement, que ce soit sur la planète, que ce soit sur l'individu, etc., quels que soient des sujets un peu structurants. Et tu choisis donc ce qui, toi, t'habite. Qui n'est pas forcément ce que les gens disent qu'on doit habiter, quoi.
Oui, là, quand tu as ce niveau de conscience, c'est effectivement possible. Est-ce qu'on a tous ce niveau de conscience pour choisir nos causes et nos actions? Ça reste à voir. Pour moi, la facilitation, elle va permettre d'accompagner les groupes, les collectifs, les organisations, voire les territoires dans le plus haut potentiel de ce qu'il est capable de réaliser. Et souvent, les points de focalisation, ce sont les grandes questions authentiques qui traversent tout le monde.
Que Norbert Elias appelait les grands récits, ou pas du tout.
Oui, alors je ne sais pas si je me rappelle plus de cette expression-là de chez Norbert Elias, mais en tout cas, ce sont les questions qui nous dépassent tous, des questions de santé, des questions d'éducation, des questions où on peut tous se retrouver. Et la facilitation s'appuie beaucoup sur ces questions pour embarquer les collectifs.
Autrement dit, avant de faciliter, est-ce qu'il faut avoir, soit on se dit les gens sont d'une page blanche, et donc à se s'entendre, se faciliter tout seul, c'est-à-dire de créer des facilitations sociales, soit on se dit, ben, je crois qu'il y a un sujet qu'on va s'approprier tous ensemble, ça peut être sauver la planète, ça peut être sauver l'individu, enfin toutes les grandes questions humaines, se rapprocher de Dieu, toutes les questions sont bonnes, dans ces cas-là, et donc le social dit, je redonne la main, je facilite, de façon à ce que les gens s'approprient, développent leur connaissance intime, pour reprendre ta terminologie, et donc finalement, ou collective, et bossent dessus, quoi.
Tout à fait, et ça reboucle avec des pédagogies qu'on connaît déjà bien, hein, pédagogie de l'enquête, par exemple, chez John Dewey, philosophe pragmatiste américain des années 30, dans lequel le fait de se mettre en mouvement, d'agir, est une part de la solution à l'inertie, à l'apathie, et nous aide véritablement à construire sa propre motivation. Donc lorsque, on se met à apprendre ensemble, ça produit des effets au niveau des groupes, des organisations, voire des sociétés qui sont sans commune mesure à ce que pourrait apporter un formateur sachant qui déposerait son savoir en leur disant voilà, je sais ce qu'il faut faire. Et en réalité, on voit bien que l'expertise, qui n'a jamais été aussi abondante, reste quand même assez finalement assez peu mobilisée. Hein, on a beaucoup, beaucoup d'expertise. Des gigaoctets, des téraoctets d'informations, de données, et elles ne sont pas métabolisées, elles ne sont pas dans les corps. Tant que ce n'est pas dans les corps, ça ne fonctionne pas. Ça reste dans le domaine des idées, mais ça n'impacte pas. La facilitation, par sa manière d'engager l'action par le corps, aide à la métabolisation et aide véritablement les collectifs à passer dans l'action, à rentrer dans un mouvement d'apprentissage qui va progressivement les dépasser. Ce faisant, on s'aperçoit
On pourrait dire à incarner les idées.
à incarner les idées, exactement, à les incarner. Donc, t'es pas simplement en train de parler de réchauffement ou de problème qualité client, mais tu es véritablement engagé dans l'action. Et ça change tout. Alors, ce faisant, on voit, et là, on va en arriver à la question de l'éthique, on voit que dans l'idée, le formateur est quelqu'un qui est centré sur son contenu et qui a pour vocation de le transmettre. Et donc, on a cette espèce d'illusion du passage d'un cerveau A à un cerveau B, qui serait support du savoir jusqu'à métabolisation. Mais en réalité, les individus sont situés, vivent dans des contextes particuliers, font des choix, ne se laisse pas résoudre à être l'objet d'un autre. Hein, en tant qu'être humain, on est des créatures autonomes, libres, indépendantes. En tout cas, on vise un petit peu d'indépendance. Et on va chercher plutôt à augmenter ses marges de manœuvre, à augmenter ses capacités de choix. La facilitation, parce qu'elle est effacement du facilitateur face à l'énergie du groupe, à l'intention collective, va autoriser justement la libération d'énergie pour résoudre des troubles, des tensions, des problèmes. D'où l'importance au démarrage de la cadrer, de cadrer la facilitation.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon facilitateur?
Alors, probablement ne pas se bercer dans l'illusion de la neutralité. Moi, je suis un petit peu comment dirais-je, en tension avec certains collègues facilitateurs qui disent le facilitateur doit être absolument neutre. Et je pense que c'est complètement impossible parce qu'en tant qu'être humain, on porte des valeurs, des
Bien sûr.
croyances, on est un homme, une femme, on a un âge particulier. Donc simplement le fait d'exister nous emmène dans un registre d'action, de conduite, et donc on n'est pas vraiment neutre. Donc la première chose, c'est de sortir de l'illusion de la neutralité. Si on sort de l'illusion de la neutralité, ça veut dire se poser des questions éthiques. Si donc mon comportement influence les autres, qu'est-ce qu'il se passe? Comment je les influence? Jusqu'où ai-je le droit de les influencer? Et si je les influence, est-ce que c'est juste que je les influence dans ce sens-là plutôt que dans cet autre sens? C'est là où je parlais au démarrage de notre entretien d'auto-saisissement de soi, savoir qui on est pour savoir quels sont les biais que nous allons générer même à notre corps défendant. Donc, probablement un bon facilitateur, donc il
Que
n'est
l'on
pas
va
neutre.
générer, mais dont on peut accepter d'être militant.
Alors,
Si
on
tu
peut
dis
accepter
la
d'être
bienveillance,
méchant.
moi je veux développer la bienveillance dans mon professionnel, c'est pas ce que je vois, c'est ce que je crois, et donc c'est ce pourquoi j'ai envie de militer, donc je serai facilitateur bienveillant, par exemple.
Par exemple, tu peux le dire comme ça. Alors ensuite, dans les organisations, on voit que ça peut être un petit peu plus difficile hein, de prétendre qu'il y a des valeurs qui agissent. De la même façon qu'à un moment donné, on a dit on laisse les émotions au vestiaire. On pourrait dire on laisse les valeurs au vestiaire. Et je crois que c'est très difficile, c'est très compliqué. D'ailleurs, certaines études issues du courant des Critical Management Studies montrent qu'un taux de TVA ou un retour sur Return on Investment sont des outils managériaux d'études, mais qui épousent une cause gestionnaire. Donc, par définition, ils ne sont pas neutres. Ils
Oui,
ont
complètement.
ils portent une représentation de la performance
Il y a une
réduite en
histoire
outils.
qui naît de Napoléon Ier avec quand il lance ses premiers trucs. Donc il y a une vraie des vraies racines et donc on est. C'est ce que disait René Char. La pomme est aveugle, c'est l'arbre qui voit. Et donc ça veut dire que même si on dit qu'on est autonome, etc., on est porté par des valeurs, par une histoire qui est prédéterminante puisque c'est l'arbre qui voit. Donc c'est des
Oui,
phrases à
j'aime
la René
beaucoup
Char. Hein.
ton. La pomme est aveugle. C'est l'arbre qui voit. C'est beau.
Moi, j'adore, ça fait réfléchir.
Ouais, tout à fait. Alors, en fait, donc je dis la première chose pour un facilitateur, c'est sortir de l'illusion de neutralité. Donc balayer devant sa porte et probablement faire un travail personnel sur quelles sont mes valeurs finalement et qu'est-ce que je crois juste de défendre et quels sont les clients pour lesquels je ne pourrais pas travailler ou parce que c'est trop à l'écart ou ceux pour lesquels c'est plus simple. La deuxième chose, je parlais de l'importance du corps. Il y a un travail à faire aussi sur le corps. Autrement dit, si ce que je défends est juste, à savoir qu'il n'y a de connaissances qu'incarnées, qu'engagées, que situées dans le monde, à ce moment-là, il faut connaître son corps, apprendre à repérer. Les seuils, ce que j'appelle les seuils, c'est ce qui fait qu'à l'intérieur de toi-même, tu sens qu'il se passe quelque chose dans un groupe. Hein. Il y a un effet de résonance, un effet de miroir, où tout d'un coup, tu sens que tu t'ennuies. Ah, mais est-ce que ce ne serait pas le signe que le groupe s'ennuie? Tu sens que le sujet est trop lourd. Est-ce que ce ne serait pas trop lourd pour le groupe? Donc cet effet seuil renvoie à l'idée du passage. Pour moi, le facilitateur, il doit aider au passage, d'aller d'un endroit à l'autre. De faciliter un chemin d'une certaine façon. Non pas qu'ils connaissent exactement la destination, mais qu'ils sentent qu'à un moment donné, il y a des bifurcations, qu'ils soient capables de les nommer face au collectif. Donc cette dimension du corps est très importante. Une troisième dimension, c'est probablement une dimension d'humilité. C'est probablement la plus difficile. Cette dimension d'humilité, c'est la dimension par laquelle tu imagines que tu sais des choses, tu imagines que tu as travaillé sur tes valeurs, sur ton corps, que tu es une personne la plus à même possible de bien faire les choses. Et cependant, eh bien, il faut se méfier de cela, parce que ça peut masquer ce qui peut se produire dans un collectif. Et taire les voix minoritaires ou les tensions. Parfois, un piège, c'est de vouloir trop vite atténuer les conflits dans un groupe. Pas de vague. Alors que le conflit
Créatif.
peut être créatif. Et donc, l'humilité, c'est de dire, bah, je ne suis pas sûr, j'ai un doute sur le fait qu'il faut qu'on s'arrête là ou qu'on continue un conflit, une expérience. Donc, dans la manière de guider quelque part ou d'accompagner le groupe, cette part d'humilité, elle peut potentiellement créer des zones de fragilité chez le facilitateur, qui se demande s'il a bien fait, s'il aurait pas dû aller plus vite ou moins vite, ou couper court une discussion, ou imposer quelque chose parce qu'un commanditaire lui a demandé d'aller dans telle ou telle direction et qu'il s'éloigne du but. Donc, cette humilité, elle est extrêmement importante à cultiver et à accepter en termes de fragilité. Pour que cette fragilité soit acceptable, le facilitateur doit probablement développer une sûreté ontologique. D'accord,
c'est-à-dire,
c'est-à-dire. Une qualité d'être dans l'existence qui te permet, par ton expérience, de ne pas douter d'une légitimité à être. Et que cette simple existence soit bénéfique pour les autres. Autrement dit, si j'ai travaillé suffisamment sur moi-même et que j'ai travaillé sur mon corps, appris à ressentir ce qui se produit dans le champ dont nous parlait Kurt Lewin, appris à sentir les énergies d'un groupe, c'est-à-dire les rires, les réticences, les muscles qui se crispent.
Les flots.
Si j'ai
Mais
appris tout ça,
ça veut dire qu'il faut être forcément âgé? Parce que pour y arriver, c'est un peu le bout du chemin, quoi, quand on y arrive.
je dirais que si tu as le caractère d'humilité, je pense que des jeunes peuvent très bien y arriver.
Très bien.
Hein.
Mais ils ne se connaissent
Puisqu'il
pas trop
s'agit.
dans leur corps, dans leurs attitudes, leur...
Ouais, ça va peut-être
moins
dépendre
qu'un
de leur
ancien.
éducation. Ou...
Absolument.
Voilà, je dis pas que parce que tu es âgé, tu as mieux facilité. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que il y a une simplicité aussi. Tu sais que peuvent avoir des jeunes que parfois des plus anciens ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont aveuglés de leur réussite. Donc voilà, cette humilité, cette sûreté ontologique sont des caractéristiques importantes pour aller vers quelque chose que j'appelle moi l'art de l'effacement, c'est-à-dire laisser la plus grande place possible au groupe pour qu'il réalise ses propres questions.
Ça, c'est une grande culture du Tao, avec Lao Tzu ou Lao Tzu, lorsqu'il disait que la connaissance, dans leur définition de la connaissance, c'est justement que tu ne connais rien, et donc tu n'as pas besoin de connaître, les mots ne sont pas importants, c'est tu es. Et donc, en
Voilà.
fait, voilà, c'est même pas ton corps qui te dit ce que tu as dedans, c'est que tu es à ta place dans ton harmonie avec le monde. Et finalement, l'idée même d'un savoir ou d'une connaissance, dans les deux cas, ils retiennent le terme connaissance, c'est une maladie, pour reprendre le terme de Lichu. Et quand tu sors ta maladie, tu es guéri. Et donc, dans ces cas, tu es dans le monde parce que tu es à ta place. Grosso modo, l'homme, le problème, c'est qu'il se fait plein de films dans sa tête, dont la connaissance fait partie. Alors qu'en fait, quand tu arrêtes, que tu te mets en méditation, par exemple, en harmonie avec le monde, en résonance, tu t'effaces. Et dans ces cas-là, tu es à ta place.
Alors, moi, la petite nuance que je verrais, c'est que pour moi, vivre et apprendre sont deux mots complètement synonymes. Autrement dit, tu ne peux pas vivre sans apprendre,
Bien sûr.
ni apprendre sans vivre. Donc, guérir de cette maladie, ce serait finalement arrêter de vivre, si je reprends mon raisonnement. Donc,
Donc c'est
je ne
là où tu
sais
es
pas si.
moins taoïste que d'autres.
Alors, moi, je suis. Oui, voilà. Je citais
Voilà, non, c'est
au
ça.
démarrage les grands courants qui ont pu alimenter la facilitation, mais je puiserai aux différents courants sans
Bien
dire
sûr.
les uns sont meilleurs que les autres, mais je dirais que c'est un chemin, une composition, une exploration personnelle qui est amené, probablement avec ses pairs. Au passage, là, on parle de l'ouvrage Éthique de la facilitation que j'ai sur lequel j'ai travaillé, Art de transformation collective. Mais j'aimerais aussi citer un travail collectif qu'on a mené avec.
Qui est aussi une
Pardon?
méthodologie dans l'éthique, ou c'est une réflexion sur la définition de l'éthique, ou
Non,
c'est une
c'est plus une
méthodologie.
réflexion. C'est plus une
D'accord.
réflexion qu'une méthodologie.
Racine des
Bon,
choses.
si tu veux de la méthodologie, c'est là où j'étais en train de citer le consortium d'accompagnement à la transition, qui est un groupe d'une quinzaine de facilitateurs, qui a mis en commun, pour le coup, tout un ensemble de méthodes pour faciliter le plus possible avec éthique, sous différentes configurations. Donc, c'est un commun qui est mis à disposition de tous, hein, qui est disponible.
C'est qu'on le
Gratuitement.
télécharge ou...
Bon, je te donnerai peut-être les
Oui,
liens
très bien. Comme ça, on les
si
mettra
tu
dans les
veux.
notes.
On pourra le mettre dans les notes pour les auditeurs qui sont intéressés.
Et donc tu disais que finalement, l'éthique, pour toi, c'était... Alors, justement, puisqu'on parle de méthodologie et que l'heure avance, si on est en entreprise, donc tu as une démarche qui est très personnelle, pas individuelle, mais personnelle. De la facilitation. Et donc, ce qui fait que dans l'entreprise, c'est très social aussi, hein, donc principalement. Tu as un responsable de formation ou un responsable RH qui dit la facilitation, c'est un outil qui me plaît bien dans l'éthique que tu développes. Comment je fais pour la mettre en œuvre?
Alors, j'ai fait ça à plusieurs reprises avec des groupes. pour réfléchir justement comment on place la facilitation. Que ce soit dans des universités ou à l'AFPA, par exemple, on a travaillé sur un carrefour de la pédagogie pour enrichir la posture du formateur de celle du facilitateur. L'idée, ça n'est pas de dire il y a un truc nouveau et ça va renverser la table du monde ancien. C'est plutôt d'enrichir. Moi, je suis plutôt dans
D'accord,
cet
très bien.
esprit-là. Et lorsque, je te prends cet exemple parce que c'est parlant, lorsqu'on a travaillé avec les formateurs de l'AFPA, déjà, on a des gens d'excellent niveau, hein, qui sont niveau pédagogique, de réflexion, de variété de public et de situation pédagogique, c'est assez extraordinaire. Et c'était l'idée de dire, bon, on va faciliter tous ensemble la construction de votre événement, tu vois, plutôt que de dire, je vais vous fabriquer tout seul et vous faire... Non, on a fabriqué ensemble, donc on a réuni un groupe, et puis, de discussion en discussion, on a construit. Et donc, il y a une part de co-construction autour de cette grande question. Donc, je dirais que la facilitation, si tu veux la déployer dans une organisation, il faut la vivre, il faut la mettre en place pour tes propres projets. Pas simplement avoir une conférence ou lire un bouquin, aussi excellent soit-il, mais vivre les choses, ressentir dans son corps ce qu'on est en train de faire et d'en comprendre les enjeux au fur et à mesure. Et puis, progressivement, les questions sortent. La question des publics, variété des publics, diversité, la question des modalités pédagogiques, facilitation à distance, facilitation dans des stages inter ou dans des actions intra, sur mesure. La question des fonctions et des niveaux. Peut-on faciliter aussi bien des jeunes que des demandeurs d'emploi, que des cadres dirigeants? Donc, les questions pratico-pratiques, elles sortent au fur et à mesure. Et dans le carrefour de la pédagogie là qu'on a fait notamment avec l'AFPA l'année dernière, ces questions, elles ont eu un écho. Puis ensuite, il y a des petits groupes de travail qui vont commencer à se pencher sur la question pour faire progresser justement ce déploiement d'un état d'esprit plus que d'une technique ou d'une méthode. Tu l'auras compris, la partie méthode est importante, mais ce qui est le cœur, c'est la posture.
Autrement dit, si je reprends, tu crées avec les professionnels, les facilitateurs, tu crées une communauté de facilitateurs, peu importe les appellations. Toi qui as écrit beaucoup sur la pédagogie, est-ce que les facilités pourraient faire communauté et finalement pourraient faire métier, ou partir de leurs
Alors,
attentes en tout cas?
typiquement, j'ai travaillé au CNFPT pendant une dizaine d'années. Et lorsqu'on a travaillé au CNFPT, on a fait beaucoup de facilitations et sont apparues des communautés d'entraide de facilitateurs. Et avec le temps, je m'aperçois que certaines ont été institutionnalisées dans des conseils régionaux ou des conseils départementaux. Donc, tu as des communautés métiers qui se sont auto-organisées.
Très bien.
Elles ont vécu tout un ensemble de pratiques proposées avec l'équipe que j'animais à l'époque. Elles s'en sont emparées, elles se sont nourries d'autres sources. On n'était pas la source unique, bien entendu.
Bien sûr.
Et elles se sont constituées en communauté avec leurs règles, leur mode de fonctionnement pour s'entraider sur les territoires. Donc ça a très, très bien fonctionné. Je travaille aussi sur des communautés de facilitateurs. Alors pour l'île de La Réunion, je travaillais sur un programme d'éco-facilitation. En Nouvelle-Calédonie, après les événements tragiques, on a travaillé à nourrir une communauté de facilitateurs hein, pour essayer de recoller les morceaux, pour essayer d'accompagner les collectifs, les formations d'une autre façon. Donc, toutes ces questions de facilitation, elles se renforcent par la communauté hein, qui va justement aider à la sûreté ontologique dont je parlais, au travail sur l'humilité. Mais pour moi, c'est un peu différent de la posture de coach et puis des certifications de coach où on normalise un peu trop le comportement. Tu vois, je disais, tu as une instance de prescription de comportement codifié et puis tu as un travail individuel. Moi, je plaide pour le travail singulier et individuel où chacun va faciliter aussi en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il vit, de la place qu'il occupe dans la société, en utilisant ou pas d'ailleurs le mot facilitation.
Oui, exactement. Mais est-ce que la grande peur de la facilitation, l'horizontalisation des choses dans les entreprises, bah, c'est que la ligne hiérarchique perde la main, quoi. Et donc, ils se disent, à un
Alors,
moment, je ne pilote plus rien, et donc autant garder un mauvais système qu'on ne sait peut-être pas terrible, mais moi, je tiens ma boutique plutôt que d'aller vers un truc où je ne sais pas où on va, quoi.
ben, oui et non, si tu veux. Tu vois, pour te, là, je travaille sur un programme de manager facilitateur dans une banque.
Bien.
Et il y a vraiment. Alors, t'as, le programme se fait à deux niveaux. Tu as un niveau au niveau du comité de direction. Donc là, c'est des patrons de région qui sont à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que décider, coacher, challenger. Et en dessous d'eux, il y a cette idée de faciliter des collectifs de travail. De plus en plus, j'ai l'impression que les entreprises, ou certaines entreprises en tout cas, ont compris qu'une part d'horizontalisation était nécessaire pour une bonne réalisation de l'action. Ça ne veut pas dire que tout va être horizontal, mais qu'il y a probablement de nouvelles alliances entre le vertical et l'horizontal, hein, si on peut dire. Et puis, quand tu vas travailler en facilitation, tu as un périmètre d'autorisation sur lequel tu vas plancher au départ avec ton commanditaire pour dire voilà la mission, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux pas aller. L'idée étant d'éviter des processus où tu vas travailler avec les groupes, leur faire croire qu'ils vont réaliser des choses, ce qu'on appelle en fait de la fascipulation, c'est-à-dire un
D'accord,
mélange
je
de
comprends.
facilitation et de manipulation dans laquelle tu fais croire qu'il y a du collectif, mais en réalité pas du tout.
Et tu as une fierté, tu retrouves un peu des émotions de ceux qui sont qui ont incarné leur transformation, comme la
Alors,
fierté, par exemple, de leur métier. C'est
oui,
un.
il y a des traits typiques. Actuellement, je mène des entretiens d'explicitation
D'accord.
pour comprendre les savoir-faire subtils des facilitateurs professionnels. Donc, j'en ai déjà mené une trentaine pour repérer des gestes métiers infraconscients, à peine visibles. Et on voit apparaître effectivement des qualités de connexion, des qualités d'abandon, des qualités de retour à des états de l'enfance ou des états de créativité ou des états de spontanéité, la capacité de mobiliser ces différents registres pour agir. Donc on voit tout ça qui ressort, hein, les effets de seuil dont je te parlais, la capacité d'être en influence consciente, c'est-à-dire je sais que je t'influence, je suis pas neutre, je suis pas neutre, mais je sais que ce que je suis en train de faire. Et d'ailleurs, je t'en parle. Je te le dis. Tu vois, donc on voit apparaître beaucoup de savoir-faire, que j'appelle savoir-faire subtil, au service des collectifs. Et moi, j'essaie de travailler dans la voie d'auto-charmeur, c'est-à-dire d'emmener trois grandes questions dans les facilitations. Quel impact pour les générations futures? Quel impact pour la planète? Et quel impact pour les exclus du système? L'idée étant, pas simplement, comme on pourrait le faire en coaching, de rester sur la commande client, mais d'être dans la commande système.
Et pas quel impact sur la personne, parce
Bien
que ça
sûr.
redéfinit la personne en elle-même, ça lui
Si.
redonne une perspective de vie, peut-être un sens à sa vie, ce qui est un gros problème aujourd'hui récurrent. Dans ces cas-là, bah, c'est quand même un peu, bah, puisque tu raisonnes dans le système, c'est un peu le cœur du système.
Alors. La personne, mais ça va se faire indirectement, parce que la facilitation, elle s'adresse plus à des collectifs qu'à des individus.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire que la facilitation accompagne des collectifs plus que des individus. Donc, je ne cherche pas à faire de l'ego building ou du développement de compétences d'un individu. Je cherche plutôt à accompagner dans un système, un collectif, une direction, une organisation, à mettre en place des processus, des postures, des leaderships qui vont l'aider à se développer, à grandir, à avancer. Et dans ce sens-là, l'individu peut avoir en contre-coup un développement personnel ou une transformation, mais c'est un effet indirect, je dirais. Je cherche certainement pas à avoir une influence directe sur un individu.
Mais tu redonnes du sens, ce qui donne, le social donne du sens, on dit sociétal parfois aujourd'hui, mais c'est-à-dire que le social donne du sens, et donc à partir de là, ça décharge l'individu d'avoir à porter en autonomie, sa vie, quoi.
Alors, j'essaie le moins possible de donner du sens aux gens, mais plus qu'ils aient des opportunités de co-construire le sens avec les autres et le milieu dans lequel ils sont, auquel ils sont imbriqués. Et actuellement, l'idée, tu vois, qu'on évoquait en off, avant notre entretien, travailler en rythme avec la nature. C'est quelque chose qui me semble une des grandes questions transversales de l'humanité au regard de ce que nous traversons, de ce que nous vivons. Crise de l'eau qui provoque des guerres, crise climatique, réchauffement, tout un ensemble de dysfonctionnements qui font que si je reprends Paul Virilio, il nous dit, finalement, si la planète s'échauffe, c'est parce que les esprits s'échauffent. Et je trouve que
Très
c'est
bien.
assez juste comme rapprochement. On est tellement échauffé, tellement à passer d'un moment à l'autre, d'un temps à un autre temps, d'un espace à un autre espace, sans goûter les transitions, que je trouve c'est justement là l'intérêt de l'éthique, de la facilitation, de nous aider à goûter le chemin et les transitions. Goûter le chemin, le seuil, les transitions, c'est quelque chose que peut probablement aider à faire un facilitateur.
Absolument. Bah, c'est un projet extraordinaire. Alors, si on veut, si on trouve ça formidable, premier élément, on prend ton bouquin, on l'achète. C'est aux éditions
L'Harmattan.
L'Harmattan. Et si on veut te contacter, parce qu'on dit ça me plaît, j'aimerais bien donner mon avis ou faire plus si affinité, comment est-ce qu'on
Bah,
fait pour te contacter?
bon, normalement, je suis assez visible en ligne, mais j'ai un site qui s'appelle Apprendre autrement ensemble. Voilà, on peut me retrouver par là où je poste régulièrement sur la facilitation sur LinkedIn. Et puis, j'essaie de renforcer les travaux sur la facilitation d'un point de vue académique et d'un point de vue pratique. Donc, d'un point de vue académique, bah, il y a cet ouvrage. Il y a aussi un article de recherche un petit peu plus scientifique qui est paru sur la facilitation, qui en reprend un peu les éléments que je t'ai indiqués qui est également dans le bouquin. Et puis le centre de formation que je co-construis avec ma partenaire et épouse, Rêve de Dana, où on travaille en mode labo pour explorer les différentes dimensions de la facilitation le plus largement possible, et pas uniquement au niveau des techniques, mais on travaille aussi beaucoup sur les postures. Et de plus en plus, je m'aperçois qu'en travaillant dans le vivant, dans la nature, ça ouvre notre esprit encore plus. Sur des horizons que je n'aurais pas soupçonnés.
Exactement. Eh bien, j'invite tout le monde à mettre Denis Christol dans sa boîte à outils, sa boîte à réflexion, sa boîte à éthique, de façon à ce que vous construisez vous-même votre propre pensée, votre propre connaissance. En tout cas, un personnage qu'il faut suivre, je vous invite à le faire, passionnant à faire. Merci Denis, c'était moi, j'ai trouvé, je me suis régalé. J'espère que les auditeurs, avant de partir, puisque c'est la dernière avant l'été, auront le plaisir de le réécouter pendant tout l'été. En tout cas, merci beaucoup Denis. À très bientôt à tous. Au revoir.
Au revoir.